Avec notre invitée ce soir à 18h19, elle est l'une des figures de l'économie au sein du gouvernement, ancienne secrétaire d'État en charge des affaires européennes. À 35 ans, elle est désormais ministre de la fonction publique. Bonsoir Amélie de Montchalin.
Bonsoir.
Merci de votre présence. Alors, évidemment, l'actualité d'abord, avec la fermeture annoncée ce soir de l'usine Bridgestone à Béthune. C'est scandaleux, a dit tout à l'heure le président de région Xavier Bertrand. Réaction très vive aussi, on l'a entendu dans le journal, de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui parle de trahison. Très concrètement, Amélie de Montchalin, au-delà des mots, que peut faire le gouvernement ?
Vous savez, avec tout le gouvernement, le président, le plan de relance, tous les ministres, on a un combat. C'est qu'on se bat pour les emplois des Français. On demande aux entreprises une seule chose, c'est d'avoir envie de se battre avec nous,
oui.
D'avoir envie de sauver des emplois, d'avoir envie de sauver leur appareil productif, leur appareil industriel. On ne peut pas tolérer qu'une entreprise, avant même d'avoir cherché des solutions, nous dise qu'elle ferme. C'est pas ça le combat collectif qu'on doit mener. On ne peut pas être des résignés. Oui, la période est dure. Oui, la conjoncture est dure. Oui, il y a une crise. Mais on a besoin de gens, d'entrepreneurs,
mais
d'entreprises
donc,
qui
faire,
veuillent
que va
se
faire
battre.
Le gouvernement pour soutenir les salariés, plus de 800, qui sont aujourd'hui évidemment effondrés.
On va mettre l'entreprise devant ses responsabilités, Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher, la région, et on va leur demander des comptes. On ne peut pas tolérer dans notre pays, vu la conjoncture, vu les moyens qu'on est en train de mettre sur la table, vu l'effort de réindustrialisation qu'on cherche à mener, qu'on mène depuis 3 ans et qu'on va continuer, qu'on va accélérer.
Mais l'économie française n'est pas une économie administrée. On ne peut pas forcer une entreprise privée à conserver un site.
On ne force personne à conserver un site. Maintenant, on oblige chacun à avoir envie de sauver des emplois. On ne peut pas, en France, dans la période actuelle, avec les moyens qu'on met sur la table, avec le combat collectif qu'on mène pour l'industrie, considérer qu'un industriel peut, du jour au lendemain, annoncer que, voilà, il ferme. C'est pas ça qu'on doit faire collectivement. J'insiste sur le mot collectif.
Donc, concrètement, Amélie de Montchalin, ça veut dire quoi ? Trouver des repreneurs, accompagner les salariés dans une reconversion, sauver le site,
mais c'est tout
investir
ça.
De l'argent public. Investir de l'argent public, c'est possible ça ?
Mais c'est tout ça à la fois.
Investir de l'argent public, c'est possible.
Il y a 35 milliards d'euros pour l'industrie dans le plan de relance.
Investir de l'argent public dans le site,
mais bien sûr.
Et nationaliser le site, comme ça a été fait il y a quelques années.
J'en sais pas si on fait des nationalisations. On a mis dans le plan de relance 35 milliards d'euros pour l'industrie. Ces milliards d'euros, c'est pas, vous voyez, des choses qui flottent en l'air.
Oui, oui.
C'est des choses qui doivent être investi sur le terrain. Évidemment, là où les entreprises veulent se battre avec nous.
Oui.
Et donc la première des obligations de Bridgestone ce soir, c'est de nous dire qu'elle a envie de se battre pour les emplois. Peut-être qu'il faut reconvertir le site, sûrement qu'il faut faire évoluer l'appareil productif, peut-être qu'il faut recapitaliser, peut-être qu'il faut moderniser l'appareil. On peut faire plein de choses.
Mais si la direction de Bridgestone, qui est un groupe asiatique, dit non, allez-vous faire voir le gouvernement français ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Ben là, on a des recours. On a des procédures juridiques, on a beaucoup de choses à faire.
Oui.
Mais nous ne sommes pas des résignés. Si on entre dans la bataille qui est devant nous,
oui,
pour sauver l'emploi, on a déjà fait beaucoup pour le chômage partiel, on a déjà fait beaucoup pour que les gens restent en emploi, on fait beaucoup pour la formation.
Mais je vous pose la question, Amélie de Montchalin, parce que bien souvent, les mots ne sont pas suivis des actes. Whirlpool, Amiens, Emmanuel Macron avait promis de sauver l'usine, c'est aujourd'hui malheureusement un site fantôme. Florange, François Hollande, les derniers hauts fourneaux ont fermé en 2013, idem à Hayange, c'était à l'époque Nicolas Sarkozy qui avait fait des promesses, le site a fermé. L'interventionnisme étatique, ça ne fonctionne plus dans l'industrie française, quand c'est détenu par des capitaux étrangers.
Vous voyez, l'effort qu'on fait dans ce plan de relance, c'est pour faire mentir exactement ce que vous dites. Parce que si on se résigne, si on considère que notre pays est en déclin, si on considère que quand le PIB chute de près de 10%, il n'y a rien à faire,
oui,
ben, il n'y a pas d'espoir collectif.
Oui, oui.
On est des hommes et des femmes politiques qui cherchons à avoir des résultats. À ce que quand on annonce qu'on veut se réindustrialiser, je vous rappelle qu'entre 2017 et 2020, avant que le coronavirus arrive, nous étions en train de recréer des emplois industriels comme jamais depuis 15 ans.
C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'entre 2009 et 2017, 1928 sites industriels ont fermé et on a perdu en plus de 40 ans 2 500 000 emplois industriels. C'est colossal.
Ce plan de relance, il est là pour que cette tendance désastreuse qui nous a fait perdre aussi dans nos territoires énormément de richesses qui fait que beaucoup de Français aujourd'hui ont l'impression qu'ils sont dans le déclassement.
Oui.
C'est ça qu'on veut faire mentir. Mais on ne le fait pas mentir avec des mots, on le fait mentir avec des moyens, avec une stratégie. Et je le répète, avec des entreprises à qui on demande une seule chose, qu'elles aient avec nous l'envie de se battre. Ceux qui ne se battent pas sont des gens qui nous trouveront face à eux.
Bien. Sur le maintien du jour de carence pour les fonctionnaires, c'est l'un de vos sujets du moment, Amélie de Montchalin. Vous avez rétabli à l'issue du confinement et à la sortie du confinement en juillet ce jour de carence pour la fonction publique. On sait que la fonction publique est pourtant l'un des premiers foyers d'infection du virus. Les syndicats parlent d'une mesure de non-sens parce que les agents publics, y compris d'ailleurs les soignants qui travaillent dans les hôpitaux, préféreront aller travailler, disent-ils, plutôt que de rester chez eux. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
La première chose que je réponds, c'est que il n'y a pas toujours, il n'y a pas de jamais sur ce sujet. Je ne suis pas dogmatique.
Oui.
Pour la simple et bonne raison que face à ce virus, nous devons en permanence être vigilants.
Mais pourquoi l'avoir rétabli ?
Nous l'avons rétabli effectivement le 10 juillet, puisque nous revenions à, au fond, un droit commun, parce que nous étions dans le déconfinement, parce que nous avons besoin que les Françaises et les Français retrouvent la vie normale, et que certes nous prenons des mesures barrières pour nous protéger, mais nous avons besoin de retrouver au travail. Sur le jour de carence, oui. J'ai passé hier une longue réunion avec les syndicats, et ils disent quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a des situations où des hommes et des femmes qui attendent de faire un test, qui sont en quatorzaine,
oui.
sont mis en arrêt maladie par leur médecin. Ce n'est pas la bonne procédure. On est en arrêt maladie quand on est malade.
Oui.
C'est la règle du jour de carence dans le privé, dans le public. L'arrêt maladie, c'est quand on est malade.
Mais quand on est cas contact, mais et qu'on ne va pas travailler pour protéger ses confrères et ses collègues.
Quand on est cas contact, quand on attend de faire un test, quand on attend le résultat d'un test, c'est extrêmement important et j'utilise vraiment votre micro ce soir pour le dire à tous les Français, mais aussi à tous les DRH, à tous les médecins. On a besoin de bien faire comprendre à chacun que attendre un test, être en quatorzaine ou se faire tester, ce n'est pas être malade.
Donc
ça n'a pas de conséquences financières. Il n'y a pas de jour de carence sur cette période-là. C'est extrêmement important qu'on rassure les Français.
Oui.
On a besoin chacun d'être dans la prévention.
Mais vous auriez pu attendre l'arrivée d'un vaccin, par exemple, pour établir ce jour de carence. Ça aurait évité justement les malentendus et la discussion qu'on a ce soir. Ça aurait été plus clair.
Le jour de carence, il s'applique pour toutes les maladies. On a besoin, dans notre pays, d'être tous, je crois, sur le pont. La relance va nous mobiliser tous. Ce jour de carence, il a été suspendu pendant un moment très particulier, qui était l'état d'urgence sanitaire. Ce que je vous dis ce soir, et vraiment ça compte,
oui, oui.
c'est que nous ne sommes pas sur ce sujet braqués. Je ne suis pas dogmatique. Si l'état sanitaire l'impose, nous pourrons à nouveau prendre cette mesure.
Bien.
Mais je dis ce soir, et je le répète, personne qui est en quatorzaine, ou qui attend de faire un test, ou qui attend un résultat de test, ne doit être considéré en arrêt maladie, puisqu'il ne doit pas avoir de conséquences financières à cette période.
J'ai une toute dernière question, Amélie de Montchalin. Je vous demanderai... si vous en êtes d'accord, une réponse courte sur le sujet de la fonction publique, toujours. L'an passé, le président de la République s'était dit prêt à renoncer à 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique, de fonctionnaires notamment, d'ici 2022. C'était pourtant l'une des grandes promesses de campagne du candidat Macron. Est-ce que vous confirmez que vous renoncez à cet objectif ?
Je confirme une chose pour 2021, c'est qu'il y aura le même nombre de fonctionnaires d'État en 2021 qu'en 2020, puisque la période que nous vivons nous impose d'avoir des moyens. Maintenant, il y a une chose qui va changer. C'est qu'on ne crée plus les postes à Paris.
Bien.
On ne se réorganise pas pour se renforcer à Paris. Toutes les créations de postes, tous les moyens nouveaux qu'on met, on les met sur le terrain, on les met proche des Français,
mais
on les met là où la relance...
on ne supprimera pas 120 000 postes de fonctionnaires.
Je vous parle de la fonction publique d'État. Les agents des collectivités territoriales dépendent de leurs employeurs territoriaux. C'est eux qui sont maîtres à bord.
C'est eux qui décideront.
Maintenant, moi, ministre de la fonction publique, il y a une partie qui nous appartient en propre, qui est la fonction publique d'État. Ce que je vous dis, et je crois que les Français le comprennent très bien, aujourd'hui, on a besoin d'avoir plus d'hommes et de femmes dans les préfectures, dans les sous-préfectures, sur le terrain, là où les décisions se prennent, là où la relance doit être mise en œuvre. Et donc, ce que le Premier ministre a annoncé très fermement...
C'est une réponse un peu longue.
C'est qu'en 2021, il y a le même nombre, mais il y a beaucoup plus de monde sur le terrain.
Bien, message entendu. Merci à Amélie Montchalin d'avoir été ce soir notre invitée.